bonheur. C'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois.
D-K-B.
Bonjour, vous êtes sur D4B 90.4 à Mel, 101.4 à Niort. Vous écoutez L'Oiselier avec
Marie,
Dani,
Marie-Hélène.
Une émission pour vous faire partager notre amour des livres, nos coups de cœur.
Les archives d'Arolsen en Allemagne ont pour tâche la restitution d'objets hérités des camps de concentration. C'est là qu'en 1990, Irène trouve un emploi et en recherchant les héritiers va faire des rencontres bouleversantes. Le bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohan. Chaque matin, elle vient par les bois. À mesure qu'elle traverse l'opacité des arbres et la nuit, Irène sent que la forêt dépose en elle quelque chose d'ancien qui se recrée sans cesse, une poussière de fantôme et d'humus. Elle roule dans le rayon jaune des phares et peu à peu glisse des ténèbres vers la lumière. Dans la petite ville, les volets fraîchement repeints s'ouvrent sans grincer. Les cheminées fument dans le matin brumeux. Rien ne dépasse, n'échappe à la vigilance des voisins. Irène aperçoit le boucher qui lève son rideau de fer. Quand elle lui adresse un signe amical, il fronce les sourcils, le regard troublé par un fond de méfiance. Il y a plus de 25 ans qu'elle s'est installée ici. Mais les habitants de Bad Arolsen la voient toujours comme une étrangère, cette Française qui les juge par en dessous et vient remuer avec d'autres qui lui ressemblent de vieilles histoires qu'il serait temps de laisser dormir. Elle freine sec pour laisser passer un cycliste avant de s'engager dans la longue allée boisée qui serpente entre les arbres. Au fond du parc, les bâtiments modernes abritent des dizaines de kilomètres d'archives et de classeurs que l'on pourrait longer des heures sans entendre les cris, les silences qu'ils renferment. Il faut avoir l'oreille fine et la main patiente, savoir ce que l'on cherche et être prêt à trouver ce que l'on ne cherchait pas. Irène est toujours émue de découvrir la plaque discrète. La première fois qu'elle a gravi ses marches, elle avait déchiffré les mots « International Tracing Service » sans savoir ce qu'ils signifiaient. Elle n'était qu'une gamine expatriée par indépendance qui était restée par amour, suivant son fiancé dans une région cernée de forêts où elle devrait déployer beaucoup de bonne volonté pour être acceptée, sans jamais y parvenir vraiment. Ce lieu était devenu, au bout du compte, ce qui se rapprochait le plus d'un chez elle. Même après que l'amour l'avait désertée, quand elle s'était retirée en lisière de ville avec un enfant partagé entre deux maisons, elle n'avait pas imaginé repartir. Parce que chaque fois qu'elle gravit ses marches, elle se sent à sa place, chargée d'une mission qui la dépasse et la justifie. Le premier jour, c'est l'odeur qui l'a saisie, ce mélange de moisies, de vieux papiers, d'encre de photocopieuse et de café froid. Elle a respiré, avant d'en avoir conscience, le mystère enclos dans ses murs, ses tiroirs innombrables, ses dossiers hâtivement refermés à son passage. Aujourd'hui, un concert de Hello Irène et de sourire l'escorte à travers le grand hall d'entrée et jusque dans les étages. Elle appartient à ce lieu. Une ruche dont les abeilles viennent d'un peu partout. Leurs prénoms composent une mosaïque changeante. Michaela, Henning, Margit, Arié, Kathleen, Casimirs, Dorota, Constance, Igor, Renzo, François, Diane, Gunther, Elzea, Christian, chacun dépose au vestiaire ce qu'il vit et souffre au dehors. Il faut se vider de tout ce qui encombre, se rendre réceptif. Elle dépose ses affaires sur son bureau, ouvre son agenda à la page du jour, le 27 octobre 2016, relève le volet roulant. La lumière grise vient frapper la photo de son fils dans son cadre argenté. C'est la seule note intime de cette pièce où s'entassent livres et dossiers dans un désordre apparent dont elle détient la clé. Sur le cliché, Anno éclate de rire. C'était il y a 4 ans, pour son 16e anniversaire. Elle le taquinait, le doigt sur le déclencheur. Ensuite, ils avaient dîné dans une brasserie du centre-ville. Elle l'avait autorisé à boire un peu de vin mousseux. « Ne le dis pas à ton père. » Papa me laisse boire de la bière depuis un moment, tu sais, avait souri Anno. Il était si beau, avec ses cheveux bouclés et cette fierté dans ses yeux noirs, comme s'il s'éloignait déjà vers sa vie d'homme. Irène avait pensé, quand il sera parti, que me restera-t-il ? Cette crainte lui avait fait honte. N'était-elle pas partie, elle aussi ? Elle n'avait laissé personne la retenir. Elle ne pèserait pas sur Anno. Aujourd'hui, il fait ses études à Göttingen et rentre le week-end quand il n'est pas chez son père ou avec ses amis. Elle s'accommode de la distance. La solitude est son affaire, son élégance de la lui cacher. Elle toque à la porte du bureau de Charlotte Rousseau. « Bonjour Irène, je vous attendais, je vous fais un café ?»« Volontiers. » Le temps de s'habituer à cette grisaille humide, on sera enseveli sous la neige, grimace la directrice du centre en mettant une capsule dans la machine à café. Fichu pays. D'origine toulousaine, elle endure le climat de ce coin de la Hesse. Dans sa voix chaleureuse, affleure une pointe d'accent de son sud-ouest natal qui s'accroche à certains mots chargés d'affect. Trace mélodique d'un pays coriace, balayé de soleil et de vent d'autan. Elle n'y retourne pas assez à son goût. « Il va falloir vous requinquer un peu, vous êtes palote, » lui dit-elle, tandis qu'elle sirote leur expresso. « J'ai une mission à vous confier. » Irène ne peut réprimer un sourire. Depuis que Charlotte Rousseau dirige l'International Tracing Service, cette phrase retentit plusieurs fois par jour. Cette petite femme à la silhouette nerveuse semble résolue à rattraper en un mandat tout ce qui n'a pas été accompli par ses prédécesseurs, au risque d'épuiser le personnel. Certains ont mis au point des stratégies pour éviter de la croiser dans les couloirs. Irène, c'est le contraire. L'énergie de la directrice la galvanise, comme si elle avait ouvert les portes d'un mausolée poussiéreux. Et puis, il y a entre elles cette discrète connivence de partager la nostalgie de la France. De quoi s'agit-il ? La directrice l'observe en buvant son café. Hier soir, j'ai pensé à ces objets qui viennent des camps. Ils ne nous appartiennent pas. On les garde ici comme des reliques des enfers. Je crois qu'il est temps de les rendre à qui de droit ? À qui de droit ? Interroge Irène. Mais leurs propriétaires sont morts, enfin la grande majorité d'entre eux. Ils ont peut-être des enfants, des petits-enfants. Vous figurez-vous le sens que ça aurait pour eux de recevoir ces objets revenus de si loin, dans leur vie, aujourd'hui, comme un testament ? Alors je pensais à vous et à votre équipe. Bien sûr, je ferai en sorte que vous receviez toute l'aide nécessaire. » Irène s'entend dire oui. Même si elle pressent que ce qu'elle sait rebâti de tranquillité risque de voler en éclats, elle n'est pas sûre d'être prête, submergée d'excitation et de crainte diffuse. Elle accepte. Et c'est ainsi, dans cette lumière brouillée d'automne, que tout commence.
In meine Ohren tät mir klingen Heida Lululu. Was Mama me fleg mir singen, Mama wiegele. Ai, Lila Lula, die ganze Welt singt er das Liedele. Ob kein Meure, Dreyfus und mein Kind, vergess nicht, dass du bist ein Gidele. Mit Pirava da je mori, mit Pirava da je mori, mit Pirava posokakia. Terno da je rovava, ne pirava posokakia, terno da je rovava.
Ce roman parle de New York, d'amour, de mariage, d'hommes creusant des tunnels, de bâtisseurs de gratte-ciel. Dans ces lieux, fourmille et laissée pour compte, loin des lieux éclairés, prospères. C'est une vie parallèle, ignorée. Colum McCann, les saisons de la nuit. Ils arrivent à l'aube, véritable géographie de chapeaux, champs de silhouettes sombres, tiges en mouvement, tournées vers le quartier des docks. d'abord éparpillée dans les rues de Brooklyn, venue par le tram, le ferry boat et le métro aérien, ils se rejoignent peu à peu pour former un seul flot. Ce sont des hommes rudes qui fument la cigarette assidûment et marchent à pas pesants en faisant tomber de leurs semelles la boue de la veille. Ils laissent une traînée de gadou derrière eux dans la neige. Des flaques gelées craquent sous leur poids. Le froid s'insinue dans leur corps. Certains ont de grosses moustaches qui ondulent au-dessus de leurs lèvres comme les herbes de la prairie. D'autres, des jeunes, ont la peau irritée par le rasoir. Tous ont le visage creusé par les risques du métier. Ils fument comme des fous, sachant qu'il pourrait bien ne leur rester que quelques heures à vivre. Engoncés dans leur pardessus, ils sentent peut-être encore sur eux l'odeur de la nuit passée. Peut-être se sont-ils saoulés, peut-être ont-ils fait l'amour, ou bien les deux à la fois. Leurs histoires de beuverie et de sexe, ils en plaisanteront plus tard. Pour lors, ils se taisent. Il fait bien trop froid pour songer à autre chose qu'à marcher et à fumer. Ils se dirigent vers l'East River et se rassemblent près de l'entrée du tunnel, battant la semelle sur le pavé afin de se réchauffer. La neige fond à leurs pieds. Dans le sas, la porte est hermétiquement fermée et l'air comprimé siffle tout autour d'eux. Walker défait le bouton du haut de son pardessus. À présent, dans la chaleur de l'air sous pression, il sent ses orteils se relâcher. Une goutte de sueur perle à son front et il la chasse du pouce. Près de lui, O'Larry est affalé contre la paroi. Il respire à fond. Bientôt, Sean Power et Rhubarb Vanucci viennent les rejoindre. L'air devient torride au fur et à mesure que la pression monte, comme si une vague de chaleur s'était avisée de les accompagner sous terre en plein hiver. Ils se pincent le nez tous les quatre, jusqu'à ce qu'ils sentent leurs oreilles se déboucher. En sortant du sas, sans quitter leur couvre-chef, les ouvriers pénètrent dans l'atmosphère sous pression de la galerie. Ils sont plus d'une centaine à patauger dans la boue. Pompeurs d'eau et soudeurs, boiseurs et maçons, grutiers et électriciens, tous, à la chaleur, ôtent leurs casquettes et leurs pardessus. Certains ont des tatouages, d'autres le ventre ballonné. Quelques-uns sont très maigres, la plupart sont musclés. Presque tous sont d'anciens mineurs des mines du Colorado, de Pennsylvanie, du New Jersey, de Pologne, d'Allemagne, d'Angleterre, comme en témoignent les poumons engraissés dont ils ont hérité. S'ils pouvaient descendre tout au fond de leur gorge, ils pourraient extraire le mal de leurs poumons. Le goudron et la crasse se détacheraient sous leurs doigts. Ils pourraient montrer un bout de tissu noir comme de la suie et dire « Voilà ce que j'ai récolté dans les galeries. » Il y a eu beaucoup de morts dans le tunnel, mais c'est une loi que ces hommes-là acceptent. Tant qu'on vit, on vit, et puis plus rien. La lumière crue des ampoules électriques vacille et les hommes évoluent sous un éclairage ondoyant, projetant sur les parois des ombres en forme de violon. Ces ombres se mêlent, se dérobent, se fondent les unes dans les autres, s'allongent, puis diminuent. Au milieu de la galerie passe une voie ferrée étroite qui tout à l'heure va servir à transporter du matériel et la boue déblayée. Les hommes marchent le long des rails et ils lâchent le convoi à des endroits divers. On jette les gamelles au sol, des chapelets sortent des poches. On ôte sa chemise dans l'ardeur momentanée du travail qui commence. Ici, un poing se ferme et fait ressortir la musculature d'un bras. Là, des épaules se redressent et révèlent un torse massif. Un peu plus loin, c'est le bruit sourd d'un poing qui s'enfonce dans la paume d'une main. Mais les quatre hommes du front de taille, Walker, O'Larry, Vanucci et Power, ne s'arrêtent pas pour parler. Il leur faut encore arpenter toute la longueur du tunnel sous les anneaux de fonte, passer à côté de toutes ces machines, de ces étaux, ces boulons, ces écrous gigantesques, ces tas de sacs de ciment. Walker marche en tête, en équilibre sur un des rails métalliques, tandis que les autres font bien attention de poser les pieds sur les traverses de bois. Leur pelle bat contre leurs jambes. Walker a son nom gravé sur le manche de la sienne. Celle d'O'Larry a une langue de métal recourbé, celle de Power la poignée enveloppée de tissu et celle de Vanucci qui a été légèrement fendue et tenue par un fourreau métallique. Ils vont toujours plus avant, s'enfonçant au cœur de ténèbres. Au fond de la galerie, ils arrivent devant le bouclier, leur protection ultime, une pièce métallique géante enfoncée dans le lit du fleuve par des vérins hydrauliques. En cas d'accident, le bouclier retient la boue comme un piston dans un cylindre. Mais Uka doivent aller encore plus loin. Chacun prend son souffle avant de se baisser pour franchir la porte ménagée dans le bouclier. Ils ont l'impression d'entrer dans une chambre minuscule tout au bout du monde, 7 mètres carrés à peine, où tout est ténèbres, moiteur et danger. À cet endroit, le lit du fleuve est retenu par de longues pales-planches et d'énormes vérins. Un toit d'acier avance au-dessus de leur tête pour les protéger des chutes de pierres et des coulées de boue. Juste à hauteur des yeux est accrochée une baladeuse qui éclaire des monticules de terre et des flaques d'une eau immonde. La lumière de l'ampoule palpite à cause des sautes de tension. Les pieds dans l'eau, Nathan Walker et Olari tendent la main et touchent les madriers pour se porter chance. « Touche du bois, mon pote, c'est ce que je fais. Nom de Dieu, ça chauffe même sur les planches. » À la fin de la journée, la boue retenue par les pales planches aura disparu, acheminée au dehors par l'étroite bois ferré et chargée dans des bennes que des chevaux poussifs tireront jusqu'à une décharge de Brooklyn. Et le bouclier sera poussé plus loin. En silence, les hommes font intérieurement le pari d'avancer plus vite qu'ils ne l'ont jamais fait dans le lit du fleuve. Peut-être même, avec de la chance, de progresser de plus de 3 mètres. Ils installent une plateforme pour s'y tenir debout. Walker dévisse un vérin et Vannucci enlève 2 pales-planches pour ménager une ouverture par laquelle ils vont pouvoir pelleter. Power et Olari reculent et s'apprêtent à charger la boue. Au cours de la journée, les 4 hommes permuteront les tâches, pelletant et chargeant à tour de rôle, chacun pourfendant le terrain de sa pelle, enfonçant le fer tranchant au plus profond.
Serais-tu liberté si, comme tant d'autres, mes pères n'avaient osé faire couler jusqu'à leur sang couvre toi naguère et même donner leur vie, leur âme pour que tu sois aujourd'hui tout ce que tu es. Serais-tu liberté, ben juste en train de me dire que toutes ces choses du passé n'ont plus aucun avenir, qui ne sert plus à présent à rien de vouloir se battre encore au nom de tout ce que tu es. Aurais-tu liberté d'oublier notre histoire?
Peut-être mieux que toi-même. Tu fais mine d'oublier, tout semble blanc comme neige. Mais je sais que résonne encore tout au fond de toi les pas de tous ces braves qui pour toi sonnèrent le glas. Armés de leurs sagailles, galets, pioches, fusils, aujourd'hui c'est avec la plume que je porte leur cri. Liberté! Ils t'appellent, écoute, ça vient du cœur. Ils sont fiers comme je suis de porter tes couleurs. Tu sais pertinemment comme moi qu'il reste bien des batailles à livrer, mais peut-être ne te sens-tu plus de taille. Aïe! Regarde bien dans les recoins de notre histoire, il y a encore des passages qui demeurent dans le noir. C'est une...
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'initiative du Parti communiste italien, des enfants du Sud sont envoyés dans le Nord pour échapper à la misère. Amerigo, 7 ans, est recueilli par Derna, jeune militante. Le train des enfants de Viola Ardone. Derna m'avait promis qu'on irait le premier jour où il ferait vraiment soleil. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. On s'est levé tard parce que c'est dimanche. J'ai ouvert les yeux, la lumière blanche qui passait entre les persiennes zébrait mon lit de rayures. Je suis allée à la fenêtre, Les champs sont devenus jaunes et le blé est en train de pousser, mais il n'est pas encore haut. Derna était déjà prête dans la cuisine. Elle avait une belle robe claire que je n'avais jamais vue. D'habitude, elle porte son chemisier blanc et sa jupe grise avec sa veste, même le dimanche. Avant, elle mettait une veste noire, mais après, elle a dit que le deuil était terminé et qu'il fallait aller de l'avant. Lui, je l'ai vu sur une photo que Derna cache dans son sac à main. Elle l'a toujours sur elle et ne la montre jamais à personne, mais hier, elle me l'a montré. Elle a dit qu'il était courageux, un vrai camarade. Il est mort dans une action contre les fascistes, et puis elle a refermé son sac et n'a plus rien dit. N'empêche qu'aujourd'hui, elle a rangé ses vêtements sombres et a sorti sa robe claire. Le jeune homme sur la photo était maigre, avec un visage joyeux. Rosa m'a dit que je lui ressemble, qu'il avait les yeux bleus lui aussi. Derna l'avait rencontré à une réunion du parti. Elle faisait un discours sur l'estrade et Rosa et Alcide étaient assis dans le public. À un moment donné, des jeunes gens sont entrés et se sont mis à côté de la fenêtre. Derna s'est tournée vers eux et l'a vue. Elle a arrêté de parler pendant un moment et puis elle s'est reprise et a continué son discours. Le jeune homme était amoureux. Il voulait l'épouser à la fin de la guerre. Mais il avait 2 ans de moins qu'elle et ceux du parti ne voulaient pas. Rosa dit que parfois les camarades sont pires que les commères dans les villages. Ils n'ont que la liberté à la bouche, mais après, ils ne veulent pas la donner, surtout pas aux femmes. Derna en souffrait. Lorsque le malheur est arrivé, elle a mis ses vêtements sombres et n'a plus adressé la parole à personne. Elle s'est plongée dans le travail et a arrêté de sourire. Et puis, « Tu es arrivée », a dit Rosa, et elle m'a pincé la joue comme elle le fait avec ses enfants. Derna arrange sa robe sur ses hanches, on dirait une jeune fille. Elle a même mis un peu de rouge à lèvres. « Aujourd'hui, on va tous à la mer. » Elle met les sandwichs au fromage et au culatello et une bouteille d'eau dans un panier. Elle m'a préparé une chemise blanche à manches courtes, des culottes courtes bleues et des chaussures à œillets, toutes neuves. D'un coup, j'ai eu envie de courir, alors j'ai couru dans la cuisine, autour de la table, 3 fois, 4 fois. Puis je me suis jetée sur Erna et je l'ai serrée fort dans mes bras. Elle vacille, perd l'équilibre, on roule sur le canapé. Je ne la lâche pas, j'enfonce mon visage dans son ventre et je respire son odeur. Derna ne me lâche pas non plus et on reste serrés tous les deux sur le canapé à rire comme des imbéciles dans nos habits de printemps. Quand Alcide frappe à la porte avec Rivo et Luzio, Derna prend le panier et avec Rosa qui porte le petit dernier dans ses bras, on va vers l'autocar qui nous emmènera à la mer. Pendant le trajet, on chante tous « Vive Derna et Rosa et la liberté !» Le soleil cogne sur la plage et l'air est chaud. La mer est calme, plate, on dirait qu'elle est toute bien peignée. Il y a aussi d'autres enfants, dont beaucoup étaient dans le train avec moi. Quand Tomasino me voit, il me jette du sable. Par contre, Maruccia n'est pas là. Tomasino dit que ses nouveaux parents veulent la garder pour toujours. Et son père le savait-il, alors je demande. Tomasino remonte son pantalon et enlève ses chaussettes. Il lève les yeux vers le ciel et dit que son père Savetier, ça lui rend service si on le soulage d'un de ses enfants. Je regarde Derna, Rosa et Alcide et je me demande si eux aussi voudraient bien me garder pour toujours. Mon papa d'ici m'a dit que je peux revenir quand je veux, me raconte Tomasino, que sa porte sera toujours ouverte. C'est eux qui viendront dans le sud pendant les vacances d'été. Ils continueront à penser à moi et à m'aider. Je me déshabille, reste en caleçon, à rayures blanches et bleues. Tomasino éclate de rire. « Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en culotte devant tout le monde? C'est un maillot de bain. Tu disais pas que la mer, ça sert à rien. Tu veux voir ?» Et je pars, comme une flèche dans l'eau, j'avance. Le sable est froid et mou sous mes pieds, l'eau est gelée, mais pas question de faire demi-tour devant Tomasino. Je veux lui prouver que je suis comme les gens du Nord. Quand elle était plus jeune, Derna savait bien nager. Elle m'a expliqué comment on fait et je suis sûre d'y arriver. Tomasino m'appelle de la plage. « Améry, où tu vas ?» Je me retourne. Derna bavarde avec des dames sous un parasol. « Derna, regarde !» Et dès qu'elle lève les yeux, je plonge. L'eau couvre mon visage, j'agite les mains et les pieds dans tous les sens, comme elle m'a dit, et je sors la tête. Mais le goût salé me remplit la bouche et le nez, je n'arrive plus à respirer. Je repars sous l'eau. Impossible de garder les yeux ouverts, je ne l'imaginais pas comme ça, l'eau de mer. Elle a l'air légère, mais une fois qu'on l'a sur la tête, elle est très lourde et elle pousse vers le fond. Je me souviens des explications de Derna et je continue de bouger mes mains et mes pieds, mais moins fort. Je sors la tête encore une fois et j'aperçois Tomasino qui pleure avec ses boucles toutes décoiffées comme il les avait avant, la brillantine de son papa du Nord. Et Derna qui court sur le sable avec sa robe claire qui s'entortille autour de ses jambes. Je ne vois pas son visage parce que je n'ai plus pied et que j'ai de l'eau dans les yeux. Mais je suis sûre qu'elle fait la même tête que le soir de la réunion avec le gros bonnet. Je n'arrive plus à résister, je coule. Je plisse les yeux, le sel me brûle la gorge, je ne respire plus. Quelque chose me serre les poignets, les mains de Derna, elles me prennent, ne me lâchent pas, se battent contre l'eau. Le poids sur ma tête devient un peu plus léger et pareil pour l'obscurité sur mes yeux. Et Derna, plus forte que la mer, me ramène à la surface. Je ne vois plus rien. La figure de ma maman, Antonietta, le rire de la jacasse, et puis rien de nouveau. Je rouvre les yeux, Derna appuie sur ma poitrine, et à chaque fois, un peu d'eau salée sort de ma bouche et de mon nez. Rosa me réchauffe avec une serviette qu'elle avait prise pour qu'on s'allonge au soleil. Et Alcide me met une bouteille de vinaigre sous le nez. Rivo et Luzio regardent sans rien dire. À côté, Tomasino continue de pleurer toujours aussi fort.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior.
Tutte le gente. Vous venez d'entendre des extraits de Le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohant, lu par Marie-Hélène.
Suivi de chansons mi-yiddish, mi-rom, par Mélina Kartowski et Eva Salina Primak.
Les saisons de la nuit de Kolum McCann, lu par Marie.
Suivi de Au nom de mes pères de Davy Sicard.
Le train des enfants de Viola Ardone, lu par Dani et Bella Ciao. Ciao, a bientôt.
Libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore.
Au temps préhistorique, pendant que les hommes dépeçaient la bête abattue et s'en disputaient les lambeaux, les femmes regardaient de loin. Et quand les mâles se dispersaient en emportant chacun sa part, sais-tu ce que faisaient les femmes? Elles suivaient amoureusement celui qui avait le plus gros beefsteak.
D4B. Hey. between us never mattered, but you've been out of reach about 10 years now. I hate him. I swear I didn't see it coming. I met this guy. I never thought it'd get that serious. And quietly, I thought about you less. And somehow I got engaged. But I hope you understand. I couldn't wait any longer. I've been faithful for years. I'm not getting any younger. Did you ever notice? Did you feel the distance? No, I broke my vows. I thought I'd never get over you. Let me move on from the ties that bind. You let me move on.
parfois d'une heure, pour acquérir une réputation qui dure 1000 ans.
Thank you. troubles far behind. One time to cry alone, one time to laugh, and this taste of tears really I have enough, enough, yeah. One time to live, I say, one time to die, I give thanks and respect to Jah my CI. One time to die alone, one time to live, I know the more you give, the more you receive. Oh,
what a lovely day, it's so good to see the children, children play. What a lovely day, the weather is fine. Your heads are better than one, my friend, to carry this heavy burden, I tell ya. Cause when not one of them for the other can give it an helping hand. Oh, sometimes it's hard. But come, oh, I cannot let the tribulation lead I astray. Yesterday is back and today's a new day. Really, what a lovely day. What a truly kind and lovely day. Can't you see? The weather is fine. People are nice and spread their vibes, I say.
What a lovely day, it's so good to see them children play. What a lovely day, the weather is fine. What a lovely day, it's so good to hear the children play. Oh, what a lovely.
Okay, listen up, gentlemen.
Chacun sa réalité, à chacun son vécu, chacun sa personnalité, sa volonté ne parle pas de fatalité. Combien sont-ils, oui, à vouloir assassiner la paix? Combien sont-ils, oui, est-ce qu'il y a des Roussman en des bleus?
Rassemblons-nous, nous n'ayons plus peur, petite sœur, ta musique est dans nos âmes et dans nos cœurs. Rassemblons-nous, militants d'un monde meilleur. Levons-nous et montrons-leur qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure.
Dans chaque pays, dans chaque nation, comblons ce grand vide. Alors, main dans la main, frangin, alors, soyons les plus malins. Alors, si le peuple marche sans pour son bien, ils ne pourront rien. Je voudrais voir l'égalité pour pouvoir des
rayonne, c'en est assez. Comment tourner la page quand elle se tourne sur son passé? Rassemblons-nous, nos fils ne mettent pas tes vieux dans un hospice. Ensemblons-nous, pouvons rétablir la justice. Rassemblons-nous vers une époque bien plus propice, avec comme ami le vent et l'avenir comme complice. Je sais par où tu es passé, je suis passé. Tu sais par où tu repasseras, je repasserai. Assez de larmes qui coulent, de voix cassées. Ensemble, un monde plus cool, sans folie ni tu n'as pas tassé. C'est la famille. Ce soir, tous ensemble au coin du feu réunis. Les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les enfants, les amis. Yo yo des mains, c'est la famille.
Rassemblons-nous, n'oublions plus nos petites sœurs. Que la musique est dans nos âmes et dans nos cœurs. Rassemblons-nous, militants d'un monde meilleur. Levons-nous et montrons-leur qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Rassemblons-nous, n'oublions plus nos petites sœurs. Que la musique est dans nos âmes et dans nos cœurs. Rassemblons-nous, militants d'un monde meilleur. Levons-nous et montrons-leur qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Rassemblons-nous, n'oublions plus nos petites sœurs. Que la musique est dans nos âmes et dans nos cœurs. Rassemblons-nous.
Ici en train d'ici.